Politique par le père Philippe Arimont, le 25 juin 91.
Alors je crois qu'on a déjà répondu à ça. Pour les couples physiquement stériles, le don des corps est illégitime, oui, en raison de l'amour. Toujours la même chose, hein. C'est un acte moral qui doit être finalisé par un amour spirituel. À propos de l'argumentation montrant l'illégitimité de l'homosexualité, on pourrait objecter, ah, très bien, pour dissocier l'acte sexuel de la fécondité, la légitimité de l'acte conjugal en dehors des périodes de fécondité. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ça. Normalement, beaucoup plus courte que les périodes d'infécondité. Légitimité reconnue par l'Église elle-même. Comment répondre à cette objection? Mais c'est toujours la même chose, c'est que, de fait, on regarde l'acte au plan naturel avec sa finalité profonde qu'on respecte. Et même si, de fait, naturellement, cette finalité ne peut pas avoir lieu. Et on ne peut du reste jamais le savoir d'une façon absolue. C'est ça qui est très curieux. Quand vous dites d'une amitié spirituelle, qu'elle est vitale, qu'est-ce que vous voulez dire? Une amitié spirituelle, c'est lorsque de fait, ce qui domine dans l'amitié, c'est cet appétit spirituel qui nous porte vers le bien spirituel, vers la personne. Et on veut le bien de l'autre. Et au point de vue chrétien, cette amitié demande d'être transformée par la charité surnaturelle. Et on l'aime comme Dieu l'aime. Comme Jésus l'aime. C'est, je crois, très important pour nous de comprendre que, au plan philosophique, le regard sur l'homme montre que sa première finalité, c'est la découverte de l'ami, au plan spirituel. Et c'est pour ça que je dis que c'est vital, parce que c'est la première découverte de l'ami. Alors, c'est vrai qu'une véritable amitié spirituelle est rare. Elle existe quand même beaucoup plus qu'on ne pense. Beaucoup plus. Moi, je sais pas, j'ai toujours rencontré dans ma vie des gens qui avaient quand même des amis. Alors, c'est pas les grandes amitiés, ça, c'est, laissons ça à rail, ça, mais c'est pas les grandes amitiés, mais c'est des amitiés vraies, saintes. C'est chez les intellectuels que c'est beaucoup plus rare. Ça, c'est vrai. Parce que les intellectuels compliquent toujours tout. Mais chez les gens simples, ça existe, cette amitié-là. Justement, au niveau qu'on ne peut pas vivre seul. Alors, chez les intellectuels, c'est beaucoup plus rare parce qu'on stade beaucoup trop le pouls. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Les gens ne se posent pas toutes ces questions-là. C'est les intellectuels qui se posent ces questions-là. Alors ils peuvent devenir malades, tout ça. Mais tandis que les gens simples, mais non. Ah, il est de mauvaise humeur aujourd'hui, je sais bien. Ça n'a pas d'importance. Demain, il sera de bonne humeur. Tandis que les intellectuels, ils envoient une histoire. Ah, ils sont pas de bonne humeur. Ils me regardent plus. Chaque fois qu'ils passent devant moi, ils baissent la tête. Chaque fois qu'ils passent devant moi, ils ont le mauvais œil. Ça, c'est des trucs d'intellectuels fatigués. Alors que nous soyons de temps en temps dans notre vie religieuse des laboratoires d'intellectuels fatigués, ça peut exister, quoi. Mais la vie religieuse doit nous donner une santé. dirais que la vie religieuse a ce phénomène particulier de maintenir en nous une grande jeunesse, ça c'est sûr. Mais il doit y avoir en même temps une grande maturité. Alors quelquefois la grande jeunesse supprime la maturité. Quand vous voyez des jeunes du même âge et qui gagnent leur vie depuis 5 ans, quand ils ont, je sais pas, 22 ans, ils ont une maturité beaucoup plus forte, souvent. Alors, ça a des avantages, mais faisons attention aux inconvénients. Parce que dans la vie religieuse, on n'a pas beaucoup de responsabilités. Au début, pendant quelques années. Quand vous avez 25 ans, normalement, dans la vie humaine, vous avez des responsabilités. Et ces responsabilités vous mûrissent. Parce que vous savez que si vous faites un faux pas, c'est grave. Dans la vie religieuse, vous n'avez pas de responsabilités. Ou très peu, vous avez des responsabilités. Qui ne sont pas des... Sauf ceux qui sont chargés des chantiers. Qui ont des responsabilités énormes, de ce point de vue-là. Autrement, il n'y a pas tellement de responsabilités. Alors, il y a quelque chose qui risque tout le temps de ne pas nous donner une vraie maturité. La maturité de la vie religieuse, elle vient d'un point de vue divin et surnaturel. C'est qu'on comprend que être l'ami du Christ, c'est les plus grandes responsabilités qui existent. Et ça, il faut le comprendre. Et alors là, à ce moment-là, le point de vue divin nous donne une vraie maturité. Et une maturité profonde. Alors il y a des quantités de petits problèmes qui dérivent comme ça. Parce que ces tas de petits problèmes demeurent quand de fait on n'a pas suffisamment de maturité. Bon. Est-ce qu'il y a encore des questions dans ce domaine-là? Il y a sans doute des quantités, mais essayez. Parce que je crois que c'est important pour nous. Quand il y en a, après la rencontre avec tel ou tel au point de vue apostolique, ou que, de fait, vous avez entendu des conversations qui montrent cela, il faut les noter, ça. Je crois que nous devons prendre ça très au sérieux, parce que c'est le mal de notre monde d'aujourd'hui. Alors il faut qu'on puisse être armé dans ça. Et qu'on puisse, voyez, je ne dis pas, essayez toujours de guérir, mais essayez au moins de ne pas dire de bêtises qui font du mal. Mieux se taire quand on ne sait pas. On peut toujours se taire. On peut toujours se refuser. Mais on n'a pas à donner des conseils qui sont faux. Vous voyez ? Ou des conseils qui encourageraient. Mais j'ai vu ça. De la part d'un religieux, pas ici, heureusement, mais qui est encouragé. Ne t'inquiète pas, mon cher ami, ne t'inquiète pas, ça passera. C'est normal à ton âge. Oui, ça c'est grave. Parce qu'alors c'est, ça prouve qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et qu'ils ne voient pas du tout ce que... Alors ils prennent leur relative, tu sais, j'ai connu ça, puis ça s'est passé. Et maintenant je suis religieux, ça revient. Et je vous affirme, c'est aussi gros que ça. Alors ça c'est très grave. Je crois que ça c'est des choses qu'on n'a pas le droit. On doit être des témoins de la vérité. Quand on ne sait pas qu'on se taise, qu'on demande conseil, qu'on essaie de s'éclairer, quand les arguments qu'on vous donne semblent pas suffisamment forts, tant pis, on cherche. Je ne veux pas dire du tout que ce que je vous ai dit la dernière fois. Je cherche depuis plus de 20 ans là-dessus. Croyez-le. Parce que j'en ai vu des cas. Depuis plus de 20 ans, j'essaie de comprendre. 20, 30 ans. Parce que très très vite, on est en contact avec eux. Ça. Et on voit combien ces jeunes souffrent. Et combien il est difficile de les aider. Alors, on doit, c'est pas, il y a Saint-Jean Éducation. singe en éducation, ça doit s'étendre jusque-là. Autrement, ce serait pas vrai qu'il y ait singe en éducation. Singe en éducation fait que nous tous, on s'intéresse à l'éducation. Alors, quelques-uns sont plus spécialisés, mais tous, parce que le pape nous le demande. Le pape dit qu'il y a deux grands aspects aujourd'hui, l'éducation des jeunes et la famille. Alors, on doit tous s'intéresser à ça. Et on doit tous s'intéresser au problème de l'éducation. Et comprendre que le problème d'éducation pose aujourd'hui des tas de questions. Très difficiles. Saint-Jean Éducation cherche. Et le jour où Saint-Jean Éducation dira qu'ils ont trouvé des méthodes, je dirais fermons la boutique. Parce qu'il n'y a pas de méthode, vous comprenez ? Il y a, on vit. Et on essaie d'aider et de soutenir. On est dans une... Oui, je crois. Alors là, l'autre jour, c'était les charismatiques qui m'ont demandé d'écrire un petit article. J'aurais voulu le donner au père Jean-Emmanuel, que j'étais pas là, j'ai pas atteint, j'ai pas pu l'atteindre. Un petit article sur l'éducation. Allez, on lui dit, écoutez, vous trompez de porte, c'est pas moi. J'ai essayé de faire au point de vue philosophique. Ça m'intéresse, parce que c'est toujours des problèmes qui sont philosophiquement très importants. Et que la philosophie de la famille implique l'éducation. Implique une philosophie d'éducation. Et j'aimerais que progressivement, on puisse avoir, je dis pas un directoire de Saint-Jean Éducation, mais quelque chose comme ça. Mais pas des recettes et des orientations. Alors, en gros, il y a une première éducation classique, qui est l'éducation des vertus. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Mais en gros, il y a ça. C'est ce que j'ai essayé de mettre dans cet article. On changera pas, il y aura toujours une première éducation à la maison. On essaiera de faire que les gosses ne soient pas trop gourmands. Vous savez bien, le pot de confiture. On a repéré qu'il était à l'endroit, maman s'en va, pot de confiture. Puis on le remet vide. Ça fait des souris à confiture. Et puis on ment à cette occasion, si on vous dépiste. Prenez donc, il y a une grosse éducation fondamentale qui est l'acquisition de la vertu de tempérance. L'acquisition d'une certaine vertu de force. L'acquisition d'une certaine vertu de justice. L'acquisition d'une certaine vertu de prudence. Je crois que les vertus cardinales demeurent comme quelque chose de fondamental. C'est la grosse éducation, je dirais ça. Je crois pas qu'on puisse remplacer ça. Surtout pour nous qui savons qu'il y a les concupiscences, conséquences du péché originel. Et qu'il faut apprendre à l'enfant, quand même, de ne pas se conduire comme un bougeur. Bien, lorsque on laisse l'enfance vraiment, ça, vous voyez, c'est plus du côté de la famille. Vous rappelez ça aux familles. Il y a une première éducation, et que la première éducation implique des pleurs. Pour qu'on puisse, je dis pas faire pleurer, c'est pas ça que vous, mais qu'on puisse éduquer, et qu'on sache que, mais oui, qu'un enfant pleure ou se met en colère, c'est normal. On a tous eu des colères de gosses. Hein? Et des colères fameuses aux gosses. Quand on nous empêchait de faire telle ou telle chose. C'est bon. Et on ne regrette pas du tout de les avoir eues. Au contraire, ça nous a permis d'acquérir un peu de force. Parce que les colères développent l'irascible. Alors, faut pas mettre exprès en colère le gosse 5 minutes tous les jours pour développer son irascible. Mais un gosse qui s'est jamais mis en colère, c'est embêtant. Faut dire ça aux parents. Ils en ont besoin, ils savent pas. Et puis Freud leur a donné, les a rendus timides pour cette première éducation. Je crois qu'il y a une... Si c'est cette première éducation dure trop longtemps, c'est très mauvais. Sauf que très vite, il y a une auto-éducation. Et l'auto-éducation, c'est par rapport à l'amour. Alors, les deux continuent, vous voyez, hein. Mais on ne peut pas avoir une auto-éducation vis-à-vis des gosses. Je ne sais pas à quel âge, jusqu'où, mais c'est impossible. On doit leur faire comprendre que c'est pour leur bien. On doit les éclairer. Ça, c'est la question de la vertu de prudence. Il ne faut jamais demander à quelqu'un, quand il est gosse, d'obéir pour le bon plaisir d'obéir. C'est pas éducatif du tout, ça. On fait coopérer avec l'autorité. Pour coopérer avec l'autorité, il faut qu'on fasse comprendre que, de fait, l'autorité est pour son bien. Ça, sûrement qu'on a là un domaine extrêmement important à rappeler aux parents. Parce que vous savez bien, c'est courant aujourd'hui, c'est constant. Et le freudisme a intensifié ça, et on respire ça. C'est que pratiquement, des quantités de jeunes gardent une sorte de méfiance terrible vis-à-vis d'autorité. Les anciens disaient, segregatus ut imperet. Il faut être séparé pour commander. Non, c'est un des principes que l'action catholique n'a pas beaucoup respecté. Parce qu'on avait dit juste l'inverse. Et il faut réfléchir là-dessus. Le segregatus ut imperet, est-ce qu'il demeure juste? Ou est-ce qu'il n'est pas juste? Sorte d'axiome qui, je crois, est juste, mais qui doit être nécessairement, comme toujours les axiomes, temporisé par autre chose. La confiance demande d'être tout proche, d'avoir la même vie. Et donc, il y a confiance et l'exercice de l'autorité. Tout exercice de l'autorité doit se faire dans la confiance, pour que l'autorité ne soit pas haïssable. On est responsable de cela quand on élève des enfants, quand on éduque des petits. On n'a pas le droit de rendre l'autorité haïssable. Il faut dire ça de temps en temps à certains pères de famille. Les mères, il y a moins de danger. Et on a rendu l'autorité haïssable. Et ça, c'est grave, parce que pour toute la vie du gosse, ça demeure. Et ça se généralise très vite, ça. Très curieux. Pas besoin de propagande. Ça se dit tout de suite. Et c'est tout ce qu'on appelle les murmures. Les murmures se portent tout le temps sur l'autorité haïssable. C'est pour ça que Saint-Benoît n'aime pas les murmures. Parce que ça fait moisir l'autorité. C'est un ferment qui fait moisir l'autorité. Qui fait que l'autorité, à ce moment-là, devient impossible. Dès que vous avez dans un groupe quelques-uns qui sont dans cette attitude-là, l'autorité est fichue. Donc, il faut faire comprendre à ceux qui doivent exercer l'autorité qu'ils n'ont pas le droit de rendre l'autorité à Issa. En religieux, c'est différent, vous voyez. Parce qu'on est déjà formé. Déformé. Il faut reformer. On doit toujours, du reste. Jésus n'a pas rendu l'autorité à Issa. Il a au contraire rendu l'autorité aimable. Je ne dis pas séduisante, mais aimable. Parce que ça, séduisante, ce serait faux. Dès qu'on exerce l'autorité, il faut accepter d'être un peu séparé. Vous l'acceptez. C'est pour ça qu'on ne peut exercer l'autorité que quand il y a une certaine autonomie. Parce qu'autrement, on ne supportera pas que l'autorité qu'on exerce pourra en séparer. On n'acceptera pas d'être solidaire. Alors à ce moment-là, on essaiera par tous les moyens de ne plus jamais exercer l'autorité. Ça, faut le savoir, on le sait, il faut le pratiquer, il faut connaître que c'est ça. Cette première éducation, elle est relativement simple. ce qui était, je crois, quelque chose d'assez terrible, cette première éducation a continué. Et qu'on ne voit pas que l'éducation n'est pas une finalité. L'éducation a pour finalité le gosse qu'on éduque. C'est lui qui finalise l'éducation. Et on demande la coopération d'autres. Ça n'a pas de finalité. En dehors du petit bonhomme auquel on peut faire comprendre justement qu'on coopère au même bien. Donc, l'exercice de l'autorité va impliquer une très grande confiance. Et la confiance s'acquiert au-delà de l'exercice de l'autorité. Donc, par l'amitié. L'amour d'amitié, je l'ai déjà dit, est au-delà de l'autorité. Quelque chose de plus profond dans le cœur de l'homme. Et c'est à travers cette confiance que l'autorité peut s'éduquer. Et cette première éducation, c'est les vertus cardinales. Cherchez bien, il n'y en a pas d'autres, heureusement. C'est les vertus cardinales. Qu'on doit au moins, vous voyez, ébaucher l'éducation. Et quand même, je crois qu'on acquiert très vite ces vertus, parce qu'elles sont fondamentales. Mais encore, il faut encore les acquérir. L'auto-éducation, c'est lorsque justement on comprend qu'on doit se prendre en main. Que même si le maître n'est plus là, le pion n'est plus là, l'officier n'est plus là, que même si de fait, qu'il y a une certaine éducation des vertus cardinales, il faut très vite, et c'est, je crois, le très grand changement qu'il y a aujourd'hui, il faut très vite passer ce que je nomme auto-éducation. Une prise de conscience très nette que tout le point de vue moral dépend de l'amour et d'un amour spirituel. Ça, je crois qu'on peut le faire comprendre assez vite. Et que dans ce domaine-là, tout de suite, si on croit en Dieu, faire comprendre que c'est immédiatement Dieu qui sonde les reins et les cœurs. On ne peut pas, dans ce domaine-là, être faux. Dans le domaine de la tempérance, on peut. Vous voyez ce que je veux dire? On peut paraître très tempérant. Et puis, prendre la confiture après. Au repas, toute petite cuillère de confiture. Puis après, oh là là. Mais ça que j'appelle être faux. On peut être faux vis-à-vis des vertus cardinales. Ça, c'est sûr. La vertu de force aussi. On peut crâner. La vertu de tempérance aussi. On ne peut pas être faux dans l'auto-éducation de sa capacité d'aimer. Et cette auto-éducation permet de prendre conscience du bien fondé des vertus cardinales. Parce qu'on comprend que toutes les vertus cardinales sont orientées à nous rendre capables d'aimer. Vous voyez, arriver à faire comprendre assez vite, dès qu'on a un petit peu le sens de ce que peut être notre personnalité, notre autonomie. Là, ça arrive plus ou moins vite, ça c'est très délicat à préciser. Faire prendre conscience que notre devoir, c'est de nous rendre capables d'aimer. Et d'aimer spirituellement. D'aimer une personne. Que tout l'effort qu'on a fait de la première éducation est pour ça. Et à ce moment-là, dès qu'on comprend cela, les vertus cardinales sont finalisées par ce désir qu'on a d'aimer et cette soif qu'on a d'aimer. Les vertus cardinales sont finalisées par l'amour d'amitié. Parce qu'on s'aperçoit très vite que c'est très difficile d'aimer vraiment quelqu'un d'un amour spirituel si on n'a pas une certaine tempérance. Vous savez, c'est très embêtant chaque fois qu'on sert un gâteau que l'ami à côté sert la part. Sans faire aucune attention. Il sert comme un goujat. Alors dès qu'on aime quelqu'un, c'est quand même un peu... Alors, une fois, ça va, et quand c'est tout le temps. Et alors, plus la vie commune est forte, plus c'est effrayant, affolant. De voir que l'ami, mais non, chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il s'en va. Tout de suite, des occupations au bon moment. Donc, aucune vertu de force. Ça ne dépasse absolument pas. C'est un agaton. Il aime bien d'être assis dans un bon fauteuil, moelleux. Et d'être étendu sur un lit. Alors ça, c'est un cassant possible, hein, de voir ça. Et ça supprime l'amour, parce que ça empêche le convivere. Parce que l'éducation et l'auto-éducation ne peuvent se faire vraiment que dans un convivere. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop nombreux. Vivre ensemble. Tout le temps là qu'on voit le point de vue véritable de ce que représente l'acquisition des vertus. Alors, cette auto-éducation, qui je crois est très importante, nous aidera à avoir une lucidité beaucoup plus grande sur nous. Peut-être le premier élément, le premier effet, si vous voulez, de cette auto-éducation, d'avoir une lucidité vis-à-vis de ses qualités, vis-à-vis de ses défauts. Vous voyez, dans la vie religieuse, les chapitres permettent énormément d'aider à ça. Un vrai chapitre devait être ça. Donner une conscience. Dans toute charité, comment les autres nous regardent. Parce qu'on ne se voit jamais, soit. Si t'es dans la glace, mais alors on se voit très mal. C'est pas une expérience, c'est une expérience clinique. Quand vous regardez dans la glace, c'est pas une expérience humaine. Tandis que les autres vous voient indépendamment de l'expérience clinique. Ils vous voient vivre et gambader, à l'air libre. Ils les voient tout de suite. Cette lucidité par rapport à soi, par rapport à ses faiblesses. Nous avons tous certaines faiblesses. Faut pas s'inquiéter. C'est le lot commun. Et ces faiblesses, on ne doit pas les proclamer. On ne doit pas non plus vouloir à tout prix les cacher. On doit les regarder en face. C'est la meilleure façon de dépasser notre timidité. C'est de regarder bien en face nos fragilités, nos faiblesses. Parce que je crois constamment, la timidité provient de là. Qu'on veut cacher ses faiblesses. Aux autres, on n'a pas envie surtout qu'ils les voient. Qu'ils les dévoilent. La lucidité qui consiste à avoir ses qualités, ses défauts. Avoir ce qui est en nous. Est particulièrement développé. C'est pas un manque d'humilité, ça. C'est dans la vérité. On sait que dans ce domaine-là, on a quelque chose à donner aux autres. Et on sait que dans un autre domaine, on est agaçant. Oui. Comme c'est utile de savoir qu'on est agaçant pour les autres. Les hippopotames ne s'en aperçoivent pas. Ils ont une peau trop lourde. C'est très très gênant de devoir dire à quelqu'un qu'il est agaçant. C'est très très gênant. C'est un peu, quand on a un peu de charité, on le dit jamais. Et on a raison de ne pas le dire, parce que c'est humiliant, dirais-je, parce que vous êtes agaçant. Quand je suis avec vous, vraiment, vraiment, je fais des oraisons jaculatoires pour pouvoir rester à côté de vous, parce que c'est vraiment trop dur. Mais ça ne se dit pas, ça. Ça ne se dit pas. On ne va pas le dire, ça. Il faudrait qu'on le découvre soi-même. La lucidité vis-à-vis de ses qualités, vis-à-vis de ses défauts. Puis ensuite, dans cette lucidité, on développe vraiment notre amour d'amitié. Sans chercher nécessairement à tout. Un amour d'amitié, on pourra découvrir alors à ce moment-là qu'il peut y avoir tel ou tel épanouissement profond. Et là, des amis peuvent nous aider aussi. Et je crois que c'est très utile dans le monde d'aujourd'hui. On vit un monde de lutte. On a tous besoin. Humainement parlant, d'avoir des amitiés. Mais la vie religieuse vous aide beaucoup dans ce domaine-là. Elle vous aide beaucoup. Parce que la charité fraternelle doit normalement faire qu'au bout d'un certain nombre d'années, nos frères ou nos sœurs deviennent de véritables amis au niveau humain. Il ne faut pas le chercher à tout prix, vous voyez? Ce diabète, je cherche un ami. Celui que je cherche un ami n'en trouve pas. Aimer Dieu, aimer le prochain, avec une charité fraternelle très forte. Cette lucidité. Je suis persuadé que lorsque Dieu nous permet d'exercer notre charité fraternelle, il y a un amour d'amitié. Mais ça, c'est pour la vie religieuse, en dehors de la vie religieuse. Pas commode. On doit au moins rester ouvert à cela. Je crois que c'est un très grand de Dieu, un très grand de Dieu d'être amicabilis, d'avoir des aptitudes à une ouverture à l'amitié. Si on n'a pas cette disposition, on doit être plus attentif à voir. Et là, quelquefois, d'autres peuvent nous aider. Mais je crois, vous voyez, que dès qu'il y a auto-lucidité par rapport à l'amour, il faut que l'amour puisse tout de suite se reposer auprès d'un ami. Ce n'est pas absolument nécessaire, surtout envers les C'est pas absolument nécessaire. En vie humaine, tout court, de vie chrétienne dans le monde, moi je crois qu'aujourd'hui c'est nécessaire. Je crois que c'est nécessaire. Et je crois que c'est nécessaire dans l'éducation que les parents vite permettent à leurs petits fistons de trouver des amis. Parce que quand ils sont jeunes, ils accepteront les amis que présenteront les parents. Tandis que dès qu'il passe un certain âge, plus du tout. Alors à ce moment-là, c'est le côté terrible des amitiés mauvaises. Et on ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours des attractions très curieuses comme ça. On sait trop bien pourquoi. La séduction. Faut pas séduire. Toute séduction est mauvaise. Les jeux qu'on voit du humain. Toute séduction mauvaise. Alors qu'il y a une séduction naturelle, instinctive, celle-là, elle n'est pas consciente, donc elle n'est pas coupable. C'est évident qu'il y a des êtres qui sont plus amicabilis extérieurement que les autres. C'est évident. C'est un fait. Faut pas dire dès que Il veut l'être, mais non, il l'est par nature. C'est Dieu qui lui a donné cette grâce. Là, on en est conscient, c'est tout. Et si on l'est, on en est conscient. Pour ne pas jouer là-dessus. Ça, c'est ma vie. Qu'on fasse ça à un âge. Ça n'a pas encore passé. Mais on ne doit pas le faire dès qu'on est un tout petit peu plus conscient. Donc l'éveil de l'amour d'amitié doit être, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, doit être très rapide. Je ne dis pas nécessairement de grandes amitiés, mais l'éveil vis-à-vis de ce domaine-là. Pour avoir des aides. Et je crois que dans la vie religieuse, ça ne se prend pas du tout de la même façon d'avoir quelques personnes en qui on a totale confiance. Indispensable. Parce que ce n'est pas au moment de crise, vous voyez ce que je veux dire, des moments où de fait plus rien ne va, tout est obscur, tout est caché, c'est pas à ce moment-là qu'on va pouvoir se lier à quelqu'un d'autre. C'est même impossible. Dans les moments de crise, on est replié sur soi. C'est le premier moment de crise. Ces moments de crise peuvent durer longtemps. On est replié sur soi. Donc il faut le faire avant. Avant les moments de crise. Parce que dans les moments de crise, si on a déjà une amitié très forte à l'égard de quelqu'un qui en vaut la peine, à nos propres yeux, alors à ce moment-là, on pourra aller le trouver. Ou les amis pourront le conduire. Parce qu'on sait qu'il y a déjà une amitié. Mais dans les moments de crise, on se replie sur soi. Et donc on devient incapable d'attirer, incapable de réaliser un réseau d'amitié. Mais ce n'est... Et je crois que c'est le point de vue du tournant d'aujourd'hui. Avant, on regardait uniquement l'éducation aux vertus. On a fait ça pendant des années et des années. Un peu le stoïcisme, voyez. Parce que le stoïcisme, c'est l'éducation des vertus. On est stoïque pour le début de l'éducation. Ça, je crois. Parce que si vous laissez le gosse faire ce qu'il veut, épicurien, vous verrez, c'est propre. Vous devez avoir un certain stoïcisme dans pour les enfants, pour les jeunes, les tout jeunes. À quel moment ça s'arrête, ça? C'est difficile à bien préciser. À ce moment-là, on quitte le stoïcisme et on prend une éducation qui est beaucoup plus type aristotélicienne, type saint Thomas. C'est-à-dire qu'on prend conscience que ce qui nous permet d'avancer, c'est d'aimer. Et d'aimer personnellement. Et d'aimer volontairement. Et qu'on prend conscience à ce moment-là que vouloir aimer, c'est aimer. Et qu'on ne doit pas hésiter de se mettre à la recherche de véritables amis. Et c'est une recherche. Faut pas croire qu'on perd son temps. Non. Moi, je conseillerais très facilement à des jeunes ça. Mais en demandant conseil, parce qu'ils sont incapables. Et à cet âge-là, ils acceptent très bien, quand ils sont encore jeunes, de demander conseil. Et de comprendre que leur auto-éducation se fait de façon tout à fait spéciale. Et là, les parents coopèrent. L'éducation de l'amour ne peut se faire qu'en exerçant l'amour. Et c'est pour cela que cette éducation est quelque chose qui réclame la recherche d'un ami. Elle est antérieure, mais en même temps, elle réclame ça pour pouvoir s'épanouir. Et les parents doivent comprendre ça. Ils doivent comprendre que c'est nécessaire à cet âge-là. C'est nécessaire pour la vie entière. Donc l'auto-éducation porte sur le développement de l'amour, la lucidité, bien discernée entre l'amour passionnel et l'amour spirituel. Alors ce discernement n'est pas toujours commode à faire, parce qu'on aime avec tout ce qu'on est. Et elle est très passionnée, très très passionnée. Ils sont cependant très spirituels. Tous les très spirituels devraient être très passionnés. Parce que tous les très passionnés ne sont pas toujours très passionnés. Ils ne sont pas toujours très spirituels. Donc il faut comprendre ça. Et dans l'auto-éducation, on comprend ça. Vous voyez, on doit pouvoir, je ne dis pas avoir un petit appareil pour jauger nos intensités d'affectivité passionnelle, mais presque. On doit savoir ça, connaître qu'il y a ça en nous. Et alors, à ce moment-là, faire le discernement en nous. Et ça, c'est continu. Entre l'amour spirituel, l'amour passionnel, l'amour imaginatif, l'amour instinctif. Faire ce discernement, c'est pas séparer, hein. C'est faire un discernement. Comprendre quand on est pris par la passion. Quand on est pris par l'instinct, quand on est pris par l'imaginaire, et qu'il y a un amour romantique en nous, de miss idéal, tu vois, romantique, les supérieurs qui attendent la novice idéale, je me souviens, c'est comme ça une abbesse, qui attendait, et elle avait le nom, elle voulait garder, je la donnerai à la novice, elle avait dit ça, je la donnerai ce nom, à la novice idéale. Puis un beau jour, elle a donné ce nom-là. Toute la vie. Vous regardez. Ah, oh, novice idéale. Vous voyez, c'est pas très bon pour l'éducation spirituelle. Mais on doit comprendre en soi ce qu'il y a d'imaginatif dans notre amour. Et couper ça. Et aider le père à la coupe. Parce qu'on ne peut pas bâtir notre vie sur un amour romantique. Un amour romantique de telle ou telle chose, un amour romantique de la liturgie, un amour romantique de, je ne sais pas, de l'un, de tout l'amour romantique d'un couvent parfait, quoi. Ça n'existe pas, donc n'ayez pas cette espèce d'amour, cette nostalgie. Parce que ça augmente les nostalgies. Et ça, je crois que ça fait partie essentielle de l'auto-éducation. Être lucide à l'égard de la diversité d'amour qui est en nous. Voilà, par là, laisser une très grande liberté au plus intime de nous-mêmes, à notre amour spirituel, qui peut choisir alors, et qui peut vraiment choisir. Alors, cette auto-éducation doit arriver à pouvoir comprendre ce primat de la contemplation. Et ça, vous voyez, ça peut se faire très vite, et ça peut mettre très longtemps à soi, mais ça doit pouvoir se faire. Le primat de l'adoration et de la contemplation. Éduquer en nous, religieux comme un aspect net.